it was so solid that it was absolutely, resolutely, I think, in the tempo of Bure 1, and I'm not sure it should be.
Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement, c'est-à-dire en podcast, c'est la même chose. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma, de la musique, de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. La musique est la moins scientifique des sciences, écrit Glenn Gould, la moins substantielle des substances. Mais personne n'a jamais réussi à nous dire la raison pour laquelle cette chose si peu scientifique et si peu substantielle que nous appelons musique nous affecte si profondément. Glenn Gould, le pianiste spirituel qui visualisait les mélodies avant de les interpréter, le déserteur des concerts et l'amoureux du micro, le défenseur des ciels gris et du Grand Nord. Glenn Gould, le penseur de la négation et l'interprète philosophe, nous accompagne sur les nouveaux chemins depuis lundi et pour en parler aujourd'hui. En studio, j'ai le grand plaisir d'accueillir celui qu'il a bien connu, qui a travaillé avec lui pendant ces 10 dernières années, qui a rassemblé ses textes chez Fayard notamment et qui est par ailleurs violoniste. J'ai nommé Bruno Mont-Saint-Jean. Bonjour à vous.
Bonjour, bon matin.
Pas avec Glenn Gould, mais avec Barbara Streisand que nous commençons cette émission, Bruno Mont-Saint-Jean. Barbara Streisand, à propos de laquelle Glenn Gould écrit qu'il ne peut faire autrement que de déclarer son amour immodéré pour la manière qu'elle a de faire de la musique. Comment est-ce qu'on comprend ça?
Je crois que ça le faisait rire énormément. Il rajoute dans ce texte que il y a un certain nombre de choses qui déclenchent son rire, mais là, il s'agit d'un rire fou. C'est, entre autres, Barbara Streisand, du fait de la perfection de son intonation.
Ah, ça le faisait rire, mais pas parce qu'il s'en moquait.
Non, ça le faisait rire de bonheur. Vous savez, c'est une explication du rire assez curieuse. Comme toujours avec Gould, on a toujours des considérations qui semblent paradoxales et qui, en fait, déclenchent chez nous une véritable compréhension des choses. Je crois que c'est le rire, vous savez, cette espèce de rire de satisfaction qu'on peut éprouver devant ces moments de vérité philosophique, artistique, esthétique, tout ce qu'on veut. Et je crois que c'était ça, avec Barbara Streisand, cette manière de... Il trouvait qu'elle avait... Elle chantait de manière aussi juste que Elisabeth Schwarzkopf.
Alors grâce à vous, Bruno Mont-Saint-Jean, nous pouvons lire les textes de Gould, et notamment ceux qu'il a écrit au sujet de Barbara Streisand et de Schwarzkopf, justement, il dit toutes les deux, ce sont toutes deux de grands maîtres de l'italique, c'est-à-dire qu'elles tendent à attirer l'attention sur des détails inattendus. Et dans cette chanson que l'on vient d'entendre, Child is Born, eh bien, il dit, cette chanson comporte deux gammes descendantes dans des modes différents. D'entendre Streisand les infléchir est simplement envoûtant. Il m'est difficile de trouver des mots qui expliquent pourquoi des choses comme cela m'émeuvent à ce point. Et il oppose à cet amour pour ces deux chanteuses sa détestation absolue du rock.
Mmh. Oui, du fait de la banalité, enfin de ce qu'il percevait comme une musique banale.
Parce que répétitive.
En partie, mais surtout parce qu'elle est banale, parce que c'est parce que le langage utilisé est une phénoménale régression par rapport à la complexité, disons, de la musique dite. Classique ou savante ou quelle que soit la manière dont on veut l'appeler, mais effectivement les musiques rock sont des musiques d'une structure extraordinairement primaire par rapport au phénomène musical, la complexité du phénomène musical. Donc ça exaspérait Gould avec une petite nuance, ceci dit, il s'intéressait aux techniques d'enregistrement utilisées et aux techniques de mixage, en particulier des instruments, à tous les synthétiseurs, toutes ces choses-là qui lui semblaient dotées d'un grand avenir. Mais le résultat musical rock l'exaspérait, le rythme, l'harmonie, ou l'absence quasi totale d'une harmonie intéressante, autre que celle de la tonique et de la dominante. Enfin bon, c'est quelque chose qui était effectivement très rudimentaire. C'est pour ça. Il avait de la même manière une assez grande impatience vis-à-vis du jazz, qu'il aimait. Il aimait, mais à dose tout à fait réduite. Alors, bon, ça fait partie des goûts, de la même manière qu'il détestait Chopin, il n'aimait pas Schumann, il n'aimait pas les romantiques.
Pas les romantiques, là encore, c'est faut mesurer ça, parce qu'il jouait quand même du Brahms, il a joué du Wagner,
Brahms, il a un rapport au romantisme particulier. Déjà comme un post-romantique, ou plus exactement, c'est quelqu'un qui fait le pont entre la musique de Bach et la musique du XXe siècle. Et donc, Brahms, c'est bien entendu, c'est une véritable passion, mais une passion qui est mesurée en ce sens que tout Brahms ne l'intéresse pas forcément. Alors il a fait quelques disques de Brahms en particulier qui sont simplement des miracles. Et je me souviens très bien, en particulier des ballades. J'étais à New York à ce moment-là, au moment où il les enregistrait. Il m'appelait tous les quarts d'heure au téléphone pour me demander de passer entendre l'enregistrement dès qu'il serait fini. Mais il ne voulait pas que je sois dans le studio au moment où ça se passait, parce que j'étais étranger à la production, donc ça ne devait pas me concerner. Et je trouve que les ballades, qui sont un des derniers enregistrements qu'il a effectués juste avant sa mort, font partie des choses les plus envoûtantes de ce qu'il a produit musicalement.
Alors on va les entendre un peu plus tard dans l'émission, on se garde quand même le magnifique, oui, Brahms, dont vous avez apporté d'ailleurs un enregistrement qu'on aura plaisir à diffuser ici même. Mais avant cela, j'aimerais qu'on entende un texte dans lequel Gould raconte la rencontre inopinée entre un aspirateur et une sonate de Mozart, et comment cette rencontre lui a permis de prendre conscience de la manière qu'il avait d'interpréter et donc de créer la sonate de Mozart. Écoutez.
Un jour, j'étais en train de travailler au piano la fugue K394 de Mozart, lorsque la femme de ménage de mes parents se mit à passer l'aspirateur juste à côté de mon piano. Il en résulta que, dans les passages forte, la musique lumineusement diatonique de Mozart fut submergée par un halo de vibrato, le genre d'effet que l'on ressent lorsqu'on chante dans son bain, qu'on a les oreilles pleines d'eau et qu'on secoue la tête. Et dans les passages piano, je n'entendais carrément plus rien de ce que je jouais, tout en continuant de ressentir une relation tactile avec le clavier. Je pouvais donc imaginer ce que je faisais, mais sans vraiment l'entendre. La chose étrange était que soudain, tout se mettait à sonner mieux que ce n'était le cas sans l'aspirateur. En particulier, ce qui sonnait mieux que tout autre étaient précisément les endroits où je ne pouvais plus m'entendre du tout.
Thank you.
C'est donc grâce à un aspirateur, Bruno Mont-Saint-Jean, que Glenn Gould comprend cette dissociation qu'il opère entre le son et l'image. Il parle bien de son imagination qui lui propose en fait une version de ce qu'il s'apprête à interpréter. C'est en ce sens qu'on peut vraiment parler d'un pianiste spirituel où l'esprit domine finalement la dimension tactile du clavier.
Oui, c'est une des ouvertures que ça propose. Je pense qu'il y a aussi une autre vision des choses qui est cette dissociation totale entre la tactilité, le fait de jouer, d'avoir une relation physique avec un instrument et le son qui est produit. Vous savez que c'est Gould était quelqu'un qui, en tout cas dans les dernières années de sa vie, ne jouait jamais de piano. Il n'en jouait jamais, littéralement, sauf au moment où il arrivait dans un studio pour enregistrer une œuvre qu'il avait complètement en tête, il l'avait travaillé mentalement, mais il n'avait pas répété au clavier. C'est quelque chose qui semble très bizarre à la plupart des musiciens, au public aussi, qui envisage la musique comme une espèce d'activité sportive et donc qui demande un entraînement permanent. Je crois que la force intellectuelle de Gould était telle que c'était quelque chose dont il a pu se passer intégralement. Il ne jouait pas de piano. Depuis qu'il a écrit ses textes, depuis qu'on a eu la formulation d'une pensée tellement abstraite d'un côté et tellement en réalité concrète dans son application, qu'il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui qui se rendent compte que faire ce travail instrumental, purement instrumental, devant, avec la radio ou devant la télévision, est quelque chose d'extraordinairement producteur, fructueux.
Fructueux, oui.
Parce que ça permet une dissociation du cerveau et de l'engagement physique dans lequel on se trouve obligatoirement lorsqu'on est en compagnie d'un instrument, que ce soit un piano ou une clarinette ou un violon. Alors, je crois que ça a des implications pratiques qui sont très profondes. C'est amusant en même temps, mais vous savez, dans la pensée de Gould, il y a toujours l'élément d'humour dont il ne faut pas ça n'est pas une gangue qui entoure sa littérature. C'est quelque chose d'absolument. C'est la manière pour lui de faire passer une pensée qui est profonde.
Alors, vous parlez de la pensée de Gould, et elle est réelle, en effet. On le découvre à la lecture des textes que vous avez rassemblés. Je pense notamment à Chemin de Traverse, qui est donc un recueil des textes de Gould, où vous mettez en regard des citations de Gould lui-même, des textes qu'il a écrits. Et se dégage, à la lecture de ces textes, une vraie vision du monde, en réalité, et notamment aussi une vision de l'histoire. C'est-à-dire qu'il dresse une forme de parallèle, pas forcément d'ailleurs de manière intentionnelle, entre la temporalité de l'interprétation et la chronologie historique, en exprimant par là une manière d'arriver à s'insérer dans l'histoire sans forcément être du côté de l'authenticité. Ça, c'est très important chez lui. C'est-à-dire que chaque interprétation n'est pas forcément une recréation, c'est une création originale qui répète ce qui a déjà eu lieu, mais de manière originale. Et là, on a une pensée d'une teneur philosophique extrêmement importante.
C'est clair.
Et surprenante.
C'est clair. Il y a chez lui, disons, en dehors de la qualité littéraire de ses écrits, qui est évident, c'est un grand maître de la langue, et ce qui a été pour moi aussi la source, non seulement le fait d'avoir la substance de ses textes, mais le bonheur de traduire ce genre de choses. C'est quelque chose d'absolument fantastique, vous savez, parce que chaque phrase pose un problème du fait qu'il utilise une langue très originale. Mais donc, il y a d'une part la qualité littéraire, d'autre part la qualité de la pensée qui est évidente. Pourquoi est-ce qu'on se trouve avec Gould aujourd'hui devant un phénomène tellement frappant? Pourquoi est-ce que son nom ne fait que se développer? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est mort, un interprète qui est mort, en général, passe par une longue période de purgatoire avant que la légende se recrée des années après? Avec Gould, ça a été le contraire qui s'est passé. Je veux dire, vous avez aujourd'hui une croissance permanente de l'appréciation que le public a de Gould, simplement parce qu'il a fallu du temps pour se défaire des catégories qui voulaient replacer Gould dans un contexte strictement musical, c'est un pianiste, un très grand pianiste, un immense pianiste, mais ça n'est qu'un pianiste. Et or, le fait que ses écrits, que sa pensée philosophique peu à peu prennent racine dans l'horizon intellectuel du monde, c'est quelque chose qui a pris un petit peu de temps. Et c'est aujourd'hui que ça se passe, finalement.
La plupart des idées sur la validité ou le manque de validité de telle ou telle entreprise artistique naissent d'une conception de l'histoire qui nous fait envisager l'action historique selon une série de points culminants et jauger les qualités d'un artiste en fonction de la manière dont il a participé au point culminant suivant, ou mieux encore, en fonction de la manière dont il a pu le devancer. Nous avons tendance à souscrire à un concept grandement exagéré de transformation historique. Pour des raisons de commodité qui paraissent nous aider à faire de l'histoire quelque chose d'approchable ou d'enseignable, nous avons tendance à préférer une description antithétique des va-et-vient de l'histoire. On applique à tout cela des termes qui sont en conséquence contaminés par toutes sortes de notions étrangères, ayant trait à de prétendues idées de progrès et de régression. À la vérité, tout art n'est jamais que variation sur un autre. Aucune œuvre d'art n'est jamais authentiquement originale, car si c'était le cas, elle serait en réalité irreconnaissable.
J'ai toujours été convaincu qu'il est possible de diviser les performances musicales en deux catégories. Il y a ceux qui cherchent à exploiter l'instrument et d'autres qui ne cherchent pas à le faire. Dans la première catégorie, à en croire les livres d'histoire, il y a des musiciens légendaires comme Liszt ou Paganini et il y a évidemment d'autres virtuoses plus récents. Dans cette catégorie, il y a des musiciens qui sont déterminés à nous rendre conscients de leur relation avec leur instrument. Et cette relation devient le point central de l'attention. Dans la seconde catégorie, il y a au contraire des musiciens qui essayent de contourner cette question du mécanisme de la performance pour créer l'illusion d'un lien direct entre eux-mêmes et la partition et ainsi aider l'auditeur à être engagé, non pas avec la performance, mais avec la musique elle-même. Et à notre époque, il n'y a pas de meilleur exemple de ce second type de musicien que Richter.
Reconnaît-on, Bruno Mont-Saint-Jean, que cette sonate de Schubert qui est interprétée n'est pas interprétée par Gould, mais par Richter?
Alors, c'est assez facile. D'une part, parce que Gould n'a jamais joué une sonate de Schubert.
Ça, il faut le savoir, alors. Notre simple oreille ne nous le dit pas.
De Schubert, il a joué le premier trio en si bémol majeur. Il a joué la cinquième symphonie aussi, au piano. Il a joué et il a dirigé la quatrième symphonie de Schubert. Bon, c'est un compositeur qui n'est n'avait pas son adhésion complète. Donc, d'une part, ça c'est clair. D'autre part, cette sonate en sol majeur, prodigieuse fantaisie sonate, elle est jouée ici par Richter d'une manière quasiment hallucinée. Le tempo. Et c'est là qu'il y a finalement un rapport tellement étonnant entre Sviatoslav Richter et Glenn Gould, qui par ailleurs n'avaient pas la même vision des choses, ni la même activité. Mais il y a une sorte de jusqu'au boutisme dans le choix des tempos. Là, ce que fait Richter est d'une lenteur qui dépasse l'imagination. Et d'arriver à posséder la musique, ou de sembler en être possédé à ce point-là, c'est quelque chose qui n'appartenait qu'à Richter ou à Gould. Ça, c'est absolument clair. Et alors, J'ai utilisé cette musique dans le film.
Donc le film que Glenn Gould, Au-delà du temps, hein, que vous avez réalisé en 2006.
Parce qu'il me semblait que d'abord, parce que Gould un peu plus tard reparle de Schubert et d'un concert auquel il a assisté étant à Moscou, où Richter interprète une sonate de Schubert qui est en fait pas celle-là, mais qui est la si bémol majeure. Mais j'ai découvert une archive de Richter visuelle de Richter jouant cette sol majeure. C'est pour ça que j'avais utilisé.
Mais dans l'extrait qu'on a entendu où il parle de Richter, il distingue deux catégories de pianistes. Il y a les musiciens qui sont déterminés à nous rendre conscients de leur relation avec l'instrument. D'autres essayent de créer l'illusion d'un lien direct entre lui-même et la partition. C'est le cas de Richter. Et de son point de vue, ce n'est pas du tout désapprobateur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au contraire, il admire la manière qu'a Richter
d'interpréter. Il se décrit lui-même. Il appartient à la deuxième catégorie.
Mais Richter également.
Et Richter également.
Lui qui disait détester la compétition, en effet, ne se place pas en compétition ici avec Richter.
Ah, mais il n'était même pas question de se placer en compétition. Vous savez que j'ai, lors des dernières rencontres. Pas tout à fait encore la dernière rencontre. C'est au moment où on avait monté le film des variations Goldberg ensemble, donc à Toronto. Pendant des semaines et des semaines de travail. Et à la fin de... Lorsqu'on a fini ce montage, on s'est retrouvés à 6h du matin. On travaillait toujours toutes les nuits ensemble. Et il m'a demandé de rester encore une nuit à Toronto avant de repartir pour Paris. Ça faisait 3 semaines que j'étais là. J'étais pressé de rentrer à Paris. Et il m'a demandé, il a insisté finalement. Donc je suis resté une nuit supplémentaire puisque c'était la nuit que lui vivait. Et à un moment, il m'a posé la question, il m'a dit, puisque tu connais Richter, est-ce que tu pourrais éventuellement lui suggérer de faire un disque avec moi? Non pas comme pianiste, mais je serais son directeur artistique. Et il pourrait jouer mon piano, il pourrait jouer le répertoire qu'il souhaite, même Rachmaninoff. Et quand j'ai entendu cette chose-là, j'ai dit à Glenn, mais tu es vraiment sérieux? Et il me souvient de sa réponse, I'm damn serious. Parce qu'il faudrait que ces gigantesques pianistes apprennent ce que c'est qu'un enregistrement, l'art d'enregistrer, non pas simplement le fait de mettre de côté une petite des événements de concert, voilà. Et alors j'avais proposé la chose à Richter quelques semaines plus tard, et Richter m'a dit qu'il accepterait à une condition, c'est que Gould vienne donner un récital à son festival à Tours en France. Donc ça, c'était une manière de rejeter l'idée.
Monsieur, vous êtes certainement au courant des succès remportés par le grand pianiste canadien Glenn Gould. Celui-ci utilise pour tous ses concerts à travers le monde un tabouret de piano en bois qui a été spécialement conçu pour lui. Comme il voyage la plupart du temps en avion, cette chaise lui occasionne d'énormes frais d'excédent de bagages. Il m'est apparu qu'il serait peut-être envisageable de fabriquer une réplique exacte en aluminium de cette chaise. Elle possède un dossier, un siège particulièrement bas. Elle est pliable et chacun de ses pieds est équipé d'une sorte d'écrou ajustable, de telle sorte qu'elle reste stable et horizontale, quelle que soit l'inclinaison du plancher des scènes sur lesquelles M. Gould est amené à se produire. L'un des nombreux problèmes auxquels il faudrait apporter une solution, au cas où vous seriez en mesure de procéder à la fabrication d'une réplique de cette chaise, provient de ce que M. Gould craint qu'une chaise en aluminium soit probablement trop légère et qu'elle risque de ce fait de glisser sous son assiette, car en jouant, il est toujours assis en bordure du siège. Cela m'intéresserait donc de savoir si une telle chaise pourrait éventuellement être fabriquée par vos soins et ce qu'il en coûterait, bien sincèrement vôtre.
What an odd instrument you've got there.
I think it has a rather nice tone, actually.
I'm talking about this thing now, which I don't know how to call it.
Monsieur, you will not speak disrespectfully of a member of the family.
How do you mean, a member of the family?
It is a boon traveling companion, without which I do not function. I cannot operate. It has been with me for 21 years.
You've actually
this thing, which is otherwise known as a chair.
You've actually given concerts on this?
I've never given any concerts on anything else.
And well,
it anyway, not for 21 years.
Do you actually mean it's been as close a companion to you as Bach has been in your musical career?
Oh, much closer, actually.
Il y a de particulièrement cocasse dans ces deux extraits, Bruno Mont-Saint-Jean, c'est que la fiction rencontre la réalité, mais pas de la manière dont laquelle on s'attendrait. On a d'abord entendu une lettre de Glenn Gould qui se fait passer par son agent, pour son agent, Hamburger, écrivant qu'il a besoin d'une réplique de sa fameuse chaise sur laquelle il ne pouvait pas jouer, en aluminium, et donc on voit ici tout l'humour de Gould qui prend soin de décrire la manière dont il a d'aimer cet instrument, cette chaise. Et puis ensuite, on a entendu un extrait de votre conversation avec lui, qu'on trouve toujours dans votre film, où vous lui demandez ce que c'est que cet instrument, et non, vous parlez non pas du piano, mais de la chaise. Il dit, mais ne manquez pas de respect à des objets qui sont si proches de moi, des membres de ma famille. Et vous dites, mais plus proche, très proche de vous, diriez-vous que cette chaise est plus proche de vous que Bach? Il dit, mais infiniment plus proche. Et ce qui paraît être un documentaire pris sur le vif, en réalité, est l'objet d'une mise en scène. Vous avez joué cette scène.
Oui, je pense que c'est ma manière de faire des films. Je pense que je voudrais effacer la distinction entre le documentaire et la fiction. Et c'est pour ça que travailler avec Gould a été pour moi un idéal, parce qu'il était possible, effectivement, de créer, de ne pas capter une réalité forcément superficielle, mais de créer une réalité pour les besoins du film et de cette manière d'aller plus profond, d'aller au cœur des choses. Donc, cette scène qui est le début du premier film que nous avons fait ensemble, c'était tourné en 1974, ça a été aussi les premières images que la France ait eues de Gould. Personne ne le connaissait à l'époque. C'est absolument étonnant. Et c'est sur ces images où on voit ce fantôme apparaître dans un studio totalement blanc, avec on a simplement des projecteurs dans le champ, et il y a un piano qui fournit le contraste entre le blanc du cyclo et le noir de ce cercueil ambulant qui est un piano. Et on voit ce fantôme approcher, déposer un paquet qui s'ouvre et qui est sa chaise, et je rentre à ce moment-là dans le champ et on a cette petite conversation. C'est une chose qu'on a tournée une vingtaine de fois, on était à peu près content du résultat, et ça a été effectivement pour le public français qui ne connaissait pas.
Mais et surtout, dites-nous à quoi ressemblait cette chaise, parce que c'est ça l'intérêt de l'extrait, si on ne connaît pas la chaise.
C'est un tel mythe qu'on connaît ça.
Ah, mais non, tout le monde ne connaît pas.
J'aurais dû vous l'apporter parce que j'en ai un exemplaire chez moi. C'est une chaise qui ressemble plutôt à une chaise percée. En ce sens qu'elle n'a pas de siège. Elle a simplement des barreaux de bois, un barreau de bois au centre, et elle est très basse, et elle repose sur des petits blocs métalliques, et ce qui fait qu'elle est réglée de telle sorte qu'il soit absolument à une hauteur toujours la même.
Très basse, d'ailleurs.
Très, très basse, qui lui permet d'avoir pratiquement le nez sur le clavier. C'est une des positions, enfin les positions, disons, la plus spectaculaire ou la plus remarquée de Gould, c'est d'être au ras du clavier.
Les jambes croisées.
Et les jambes croisées la plupart du temps, puisqu'il n'utilise pratiquement jamais la pédale forte, uniquement la pédale douce. Et la pédale forte, pour des raisons de couleur et non pas pour estomper, pour rendre opaque la sonorité. Chez Gould, la clarté de la sonorité est l'objectif majeur, puisqu'il s'agit pour lui de faire percevoir à l'auditeur l'intérieur de la musique et non pas son côté éventuellement brillant ou extérieur. Voilà. Alors, toujours est-il que c'est curieux, si vous vous mettez au piano un jour, ou à quelques moments, essayez de jouer du piano, quelle que soit une note, ou une phrase, ou un trait, ou peu importe, mais une seule note, et mettez-vous proche du clavier, l'oreille très très proche, je veux dire, à quelques centimètres du clavier. Vous verrez la perception qu'on a de la sonorité du clavier et de toutes les harmonies qui vont avec. Et c'est pour ça que cette sonorité de Gould, tellement frappante, pas au sens que ça vous bouleverse, c'est parce qu'il a une telle proximité avec le son.
Et pourtant, il dit l'inverse dans le récit de la rencontre entre l'aspirateur et Mozart. Il dit c'est quand je ne pouvais plus m'entendre que j'ai le mieux compris ce que je voulais faire.
Oui, mais là, il parle, c'est tout à fait autre chose. Il parle de séance de travail. Au moment.
Là, vous parlez d'interprétation, du coup, de concert.
Le moment où il enregistre ou le moment où il jouait en public. La plupart du temps, il est effectivement très, très proche. Il a le nez quasiment appuyé sur le piano. En tout cas, c'est l'image qu'on en voit dans les films qu'on a fait. Ça n'est pas vrai lorsqu'il joue du Scriabine ou des œuvres qui demandent un levier beaucoup plus étendu, couvrir la totalité du clavier. Sur Bach, c'est tout à fait différent, Bach ou Mozart ou Beethoven, et ça lui permet de donner cette sonorité qui vous touche au cœur.
Écoutez-le, maintenant, désormais interprété non pas Beethoven, non pas Bach, non pas Mozart, mais Strauss. C'était Morgan de Strauss, interprété par Glenn Gould au piano, Elisabeth Schwarzkopf au chant sur France Culture. Vous écoutez Nouveau Chemin de la Connaissance, il est 10h33 et c'est le dernier temps de notre série d'émissions consacrée à Glenn Gould avec, pour l'occasion, Bruno Mont-Saint-Jean en studio pour vous en parler. Il est évident que Strauss n'a rien à voir avec le XXe siècle tel que nous le connaissons. Il n'appartient sans doute pas plus à l'âge de l'atome que Jean-Sébastien Bach n'a appartenu à l'âge de la raison. À l'aune des critères esthétiques et philosophiques que nous pouvons lui appliquer, il n'est pas un homme de notre temps. La grandeur de sa musique est de donner substance à un argument qui transcende tous les dogmatismes de l'art, toutes les questions de style, de goût, de langage, toutes les veules et frivoles préoccupations du chronologiste. Elle nous fournit l'exemple d'un homme qui enrichit son temps en n'y appartenant pas, qui parle pour toutes les générations en n'appartenant à aucune. C'est l'argument suprême de l'individualité qui soutient que l'homme peut créer sa propre synthèse du temps sans être lié par la conformité que le temps voudrait lui imposer. C'est dans le recueil « Chemin de traverse » Bruno Mont-Saint-Jean que vous proposez aux éditions Fayard que l'on trouve ce texte magnifique sur Strauss, et c'est assez rare de voir à quel point Gould peut interpréter la musique et écrire de manière aussi lucide sur le compositeur qu'il est en train d'interpréter. Il est sur tous les fronts, en réalité.
Vous connaissez un autre super virtuose, qui ait une pensée aussi profonde, philosophique, ou religieuse, théologique, musicale également.
Moi non, mais vous connaissez le sujet mieux que
d'autres.
Moi.
Il n'y en a pas d'autres. C'est très curieux parce que je vous entends dire ça et je suis très touché aussi par le par la beauté de cette prose et la beauté de la pensée. Je veux dire, ça a des implications philosophiques majeures. Je pense que c'est un des grands esprits de notre temps, tout simplement. Et qu'il ait réussi à combiner...
Gould, non pas Strauss, Gould, parce qu'il oui, dit Strauss n'est pas Gould. Un homme de son temps.
Richard Strauss est effectivement l'un des très grands compositeurs du XXe siècle. Mais qui a été lui très critiqué pour avoir été après avoir eu des débuts d'avant-gardiste à la fin du 19e siècle, on le considérait comme vraiment l'avenir de la musique, et il a été critiqué pour avoir vers la fin de sa vie conservé le même type de langage qui était le sien 70 ans plus tôt. Et Gould a cette pensée qui me semble très très importante, que cette idée complètement fallacieuse d'un progrès en art, c'est-à-dire le fait que on peut déterminer que Palestrina est mieux que Guillaume de Machaut, que Monteverdi est mieux que Palestrina, qu'il y a une espèce de progrès, alors que chaque langage a sa perfection indépendante de sa chronologie, disons. Et je crois que l'idée de déchronologiser l'histoire...
Ça revient souvent dans les écrits de Gould, cette idée-là.
Oui, c'est permanent. Ouais. C'est permanent. Et ce qui lui a amené à défendre des musiques qui n'étaient pas dans l'air du temps, si vous voulez. En fait, c'est le rejet de l'air du temps. Et je crois que ça va aussi loin que ça. Je veux dire, c'est-à-dire que la pensée snob, la pensée qui enchaîne, qui esclavagise l'humanité, est quelque chose qui est totalement contraire à ce qu'était Glenn. Et je crois que c'est pour ça qu'il est aujourd'hui en dehors de son génie de musicien, qui est bien entendu la première chose qui peut toucher le public. Parce qu'il avait cette autre dimension que il a survécu et que sa mort n'est finalement qu'un événement physique qui le concernait. Mais je veux dire, la réalité de l'esprit est toujours présente.
Mais comment comprendre ce souci, cette obsession de penser l'histoire autrement qu'en termes chronologiques? Parce qu'il fait quand même référence souvent à cette histoire, mais pour dire que ce n'est pas la dimension chronologique qui est la plus importante. Comment conçoit-il ces personnages, ces compositeurs qu'il interprète et auxquels il veut rendre hommage avec un amour, et vraiment le terme est prononcé, hein, extrêmement fort? Pourquoi a-t-il besoin de les opposer à cette histoire-là?
Parce que il y a chez lui une détestation de l'évaluation esthétique qui est liée à l'idée de l'avant-garde. Gould lui-même a été, au début de sa carrière, avant qu'il ne fasse une carrière internationale, un propagandiste effréné de la musique de son temps. Il a joué Schoenberg avant tout le monde, il a joué toute l'école de Vienne, alors que ces gens-là étaient encore vivants. Et puis après, il a fait une série d'émissions de télévision, d'émissions de radio sur la musique de notre temps, mais il a toujours récusé l'idée que c'était, disons, en gros, le dogmatisme imposé par ce qui s'est passé en France avec Pierre Boulez, avec les écoles extraordinairement. Il y a eu la disparition du communisme, la disparition du totalitarisme boulezien. Ce qui veut dire, Gould admirait énormément la musique de Boulez. Il s'apprêtait à jouer d'ailleurs sa deuxième sonate. Mais il avait une détestation du dogmatisme en musique. Et il a trouvé que c'est la plupart de ces dogmatiques disaient, soit vous apportez du mouvement d'histoire, se faisait dans les poubelles de l'histoire. Et Gould constatait que le personnage central, sinon de de toute la musique, mais du moins, sinon de toute l'histoire de l'humanité, mais de la musique, qui est Jean-Sébastien Bach, qui n'apparaît pas d'ailleurs aujourd'hui dans...
Non, vous nous avez demandé de ne pas diffuser du Bach aujourd'hui.
Je pense qu'il fallait jeter une autre lumière sur Gould, peut-être. Parce que Bach et Gould, c'est une identification qui est quelque chose de stupéfiant. Mais pour en revenir à l'idée de je parlais de quoi, pardonnez-moi.
Justement, sur le fait qu'il y avait une espèce de dommage rendu à ses maîtres, indépendamment de toute forme d'histoire.
Voilà. Et donc, que le dogmatisme imposé, le dogmatisme de l'avant-gardisme était quelque chose qui était tout à fait fallacieux par rapport à ce que lui considérait comme chacun ayant sa raison d'être.
Et il voulait sortir de toute forme de guerre d'artistes contemporains, voilà, de l'avant-garde.
C'est absolument opposé à la guerre. C'était une manière pacifiste de voir les choses. Et en même temps, il y a suffisamment d'exemples dans l'histoire, justement, de Bach, de Strauss, de Sibelius, de tous ces grands compositeurs qui n'étaient pas forcément à l'avant-garde de son temps. Avec Bach, c'est quelque chose de stupéfiant. On a fait un film qui s'appelle La fugue est morte, vive le menuet, Bach était considéré par ses enfants et à la fin de son époque comme un vieux schnock. Et c'est parce qu'il n'appartenait pas à son temps qu'aujourd'hui on le perçoit comme le personnage central de l'histoire de la musique.
Je vous ai promis qu'on allait écouter Brahms et on va terminer cette émission avec la balade numéro 2 en ré majeur de Brahms. Mais avant ça, une dernière référence à l'un de ses textes et une des citations que j'ai trouvées en me promenant dans les textes de Glenn Gould que vous avez rassemblés, Bruno Mont-Saint-Jean. Il écrit ceci: « Ne jamais perdre de vue que tous les aspects de la connaissance ne sont possibles qu'en vertu de leur rapport avec la négation, avec ce qui n'est pas ou semble ne pas être. » Ce qu'il y a de plus impressionnant chez l'homme, la seule chose qui excuse sa folie et sa brutalité, est le fait qu'il a inventé le concept de ce qui n'existe pas. Comment on explique cette pensée de la négation chez Gould? Et parce qu'effectivement, il n'écrit pas ça, disons, pour rien de dire que l'homme est le seul qui a inventé le concept de ce qui n'existe pas. On l'entend, cette négation, dans son interprétation?
Oui. On l'entend en ce sens qu'il se réfère visiblement à une expérience de transcendance. Je crois que c'est peut-être la marque la plus forte de Gould, l'interprète. Il récuse en réalité tout ce qui est extérieur à la musique, tout ce qui est démonstration instrumentale, pour se livrer à une méditation sur la transcendance, sur la destinée. J'ai trouvé quelques très beaux textes aussi de lui sur la plausibilité. Vous savez, cette idée de d'un au-delà, qui lui semble plus plausible que son contraire, qui serait l'oubli et le néant. Donc il y a toujours chez lui cette pensée qui aussi entre ces deux paramètres. Et c'est finalement, c'est le personnage qui s'interroge, qui nous intéresse le plus, je crois.
Et parce que la négation est un terme qui est extrêmement fort, c'est pas simplement l'oubli ou la retenue, c'est la négation. Vous pensez que c'est l'idée de la mort, justement, parce qu'on disait au cours de cette semaine avec Jean-Yves Clément ou André Hirt que ce qu'il y avait de surprenant dans le personnage Gould ici, c'est cette volonté quasiment de se nuire, le fait qu'il était très malade, qu'il n'ait pas voulu se soigner, comme s'il avait accéléré la fin. Alors que par ailleurs, c'était quelqu'un de très joyeux.
Il n'avait pas voulu se soigner, je ne pense pas que ce soit la réalité. C'est quelqu'un qui était comment dit-on, c'est un malade imaginaire. Comment est-ce qu'on dit ça?
Un hypochondriac.
Un hypochondriac, voilà, c'est ça. Hypochondriac, mais qui avait une perception très claire de sa mort, puisque je lui ai parlé encore la veille de sa mort au téléphone, il avait une grippe qui le faisait venir comme un pélican. Et il savait que les dangers qu'il courait avec l'hypertension, donc il était au contraire ultra soigné, mais de manière certainement pas cohérente. Alors que c'était quelqu'un de totalement cohérent qui a mis en œuvre et qui a mis en pratique sa pensée. Du côté de la santé, de la médecine, il s'était beaucoup plus impressionniste, disons. Je ne pense pas qu'il ait souhaité, il n'était certainement pas souhaité. Oui, il m'avait quand même dit qu'à 50 ans, il arrêterait de jouer du piano et il est mort le jour de ses 50 ans.
sur la deuxième ballade de l'opus 10 de la en ré majeur de Brahms, que nous nous quittons, nous quittons, j'en perds mon français, Bruno Mont-Saint-Jean. Vous semblez très ému à l'écoute de cette interprétation.
Un des 12 derniers enregistrements de Gould. Il l'a enregistré en février 82 et il est mort au mois d'octobre.
Alors je rappelle que vous avez réalisé un film avec lui donc, qui s'appelle Au-delà du temps, que vous avez rassemblé les textes de Gould, on les trouve tous chez Fayard, Le dernier puritain, Non, je ne suis pas du tout un excentrique, Chemin de travers, dont on s'est beaucoup servi au cours de cette émission, Contrepoint à la ligne également. Et vous êtes aussi violoniste et vous avez interprété, parce que Glenn Gould est compositeur, il a interprété...
On a joué et enregistré son magnifique quatuor à cordes, une œuvre colossale, qui dure près de 40 minutes, on l'a beaucoup joué et c'était... Ça a été une grande expérience. Au point de vue des films, je n'ai pas fait un film sur Gould, j'en ai fait 8.
Énormément, oui. Ouais. J'en cite un parce que c'est celui dont on a cité les extraits. On mettra en ligne sur le site des Nouveaux Chemins toutes les références de tout ce que vous avez réalisé sur Gould, ouais. Écrit, interprété. Merci à vous en tout cas d'être venu en parler
aujourd'hui.
Merci,
j'étais ravi.
Et sur France Culture à 10h48, il est l'heure de quitter Glenn Gould et Brahms et Bruno Mont-Saint-Jean et d'accueillir Géraldine Mosna-Savoie pour ces deux minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous venez nous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a retenu votre attention?
Alors aujourd'hui, en vertu du partenariat que nous avons avec Philosophie Magazine, j'ai sélectionné un ouvrage dont il est question dans le numéro de novembre. Et donc c'est le donc l'essai dont j'ai...
Que vous avez retenu
ouais, que j'ai retenu, c'est « Laisser sérénité vieillir est un art » de Wilhelm Schmidt. Bon, je suis désolée pour...
Ah, ça clash avec Gould, Brahms, ça c'est sûr.
C'est un peu la rupture, donc. On entend cette chanson, se sentir jeune dans sa tête, vouloir rester jeune, rêver de la jeunesse éternelle. On l'a entendu en 1984, avec cette chanson d'Alphaville, la jeunesse s'affirme comme une revendication, comme un cri de guerre et d'imploration. Mais le paradoxe de la jeunesse, c'est qu'elle ne se désire jamais pour elle-même. Elle ne se désire qu'à la condition de toucher à la vieillesse. Couple d'opposés, l'un ne va donc pas sans l'autre. Et quand on rêve, plus jeune, de nos dernières années, à profiter d'une terrasse au soleil, le fait est que lorsqu'on est plus âgé, on veut redevenir plus jeune. Comment donc rendre la vieillesse désirable pour elle-même alors qu'on a toujours l'impression de la subir ? Alors au-delà des réflexions attendues sur les âges de la vie, le temps qui passe et notre insatisfaction essentielle, la question plus intéressante que pose Wilhelm Schmidt dans son livre « La sérénité », c'est comment donc cesser de lutter avec ce que l'on est et même le désirer. Et il se présente bien ainsi comme un traité, à la manière des philosophies antiques, de quoi découvrir et maîtriser l'art de vieillir. Alors par contre, le communiqué de presse ne manque pas de le présenter comme un livre en phase avec l'esprit de son temps, coaching et accompagnement thérapeutique, ce qui est bizarre, je le signale, pour un propos qui tente justement de se décoller des impératifs de son époque. Et il faut dépasser l'idée quand même d'un parcours en 10 étapes vers la sérénité, les exhortations au jardinage, au dialogue, au souvenir, comme si cela était réservé ainsi à un âge. Bref, il faut garder de ce best-seller le meilleur justement, à savoir cette idée que vieillir s'apprend, qu'avancer dans l'âge ce n'est pas renoncer à certaines choses, c'est accepter ce qui relève de notre sort et ce sur quoi nous n'avons pas la main. Alors jusqu'ici, Wilhelm Schmidt avait travaillé sur l'épicurisme. Serait-il devenu stoïcien ? Après la brièveté de la vie selon Sénèque, devrait-on désormais parler de la longueur de la vie selon Schmitt ?
Eh bien, ça a l'air passionnant. Donc, on trouve ça dans le dernier numéro de Philosophie Magazine.
On entend aussi une recension dans le dernier numéro de Philosophie Magazine. Cet essai s'appelle « Sérénité vieillir est un art », c'est de Wilhelm Schmidt. C'est un best-seller en Allemagne. C'est paru aux éditions Piranha.
Et le dernier numéro de Philosophie Magazine, donc de novembre 2016, a pour dossier principal « La démocratie, ça devrait être quoi ?» Un dossier garanti sans candidat pour réinventer la politique, écrit Philosophie Magazine. Et on trouve en cahier central au milieu de ce magazine « Deviens ce que tu es » de Friedrich Nietzsche par Dorian Astor, qu'on avait reçu à ce micro, et Paolo Diorio. Merci Géraldine et merci à tous. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin pour aujourd'hui. Cette semaine sur Glenn Gould s'achève. Elle est intégralement réécoutable et podcastable en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Et on se retrouve demain pour les Chemins du vendredi. J'aurai le plaisir de recevoir Baptiste Morisot qui viendra vous parler du loup. Et oui, la figure du loup dans notre société. Son livre s'appelle Les Diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant aux éditions Wild Project.